Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
C'est une autre conséquence du Brexit. À peine les résultats annoncés vendredi, le Royaume-Uni s'est retrouvé face aux aspirations à l'indépendance de l'Écosse, mais aussi de certains en Irlande du Nord, deux nations europhiles sur le point d'être détachées de l'Union européenne contre leur gré, puisque les deux territoires ont massivement voté pour le maintien dans l'UE. Que dire de Gibraltar, petite enclave britannique au sud de l'Espagne qui a voté à plus de 90% pour le IN, un risque d'implosion qui inquiète même le pape. François a mis en garde contre une balkanisation de l'Europe, pensant aussi, précisons-le, à ce qui se trame en Catalogne, même si c'est un tout autre sujet. Alors Brexit, le Royaume-Uni va-t-il imploser? C'est le débat de ce soir, bienvenue. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités à mes côtés en studio. Pauline Schnapper, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de civilisation britannique contemporaine à l'université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Et puis avec nous, par téléphone, Richard Davis, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur, vous aussi, de civilisation britannique, mais à l'Université de Lille. Alors, pour commencer, si vous êtes d'accord, je voudrais faire un petit tour de table et vous demander, évidemment, votre sentiment après ce Brexit et surtout votre sentiment sur ce qui se trame, sur l'identité, l'unité du Royaume-Uni. Pauline Schnapper, est-ce que le Royaume-Uni vous semble avoir encore de l'avenir aujourd'hui ?
Je serais bien en peine de vous répondre aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est qu'il est en danger. Son unité est en danger plus qu'elle ne l'a probablement jamais été. Les tensions existaient déjà depuis un certain temps, mais le résultat de ce vote, qui est malgré tout un choc pour beaucoup d'entre nous, la remet encore plus en question à cause de ce que vous venez d'expliquer, c'est-à-dire les différences de vote, notamment entre l'Angleterre et l'Écosse. C'est peut-être là que le problème va se poser en premier. Il y a d'ailleurs des différences aussi très fortes au sein de l'Angleterre, mais qui posent pas ce problème de l'unité du pays.
Richard Davis, votre sentiment, est-ce que c'est la fin du Royaume-Uni ?
Alors, je ne sais pas trop si on peut parler d'une fin du Royaume-Uni, mais ce qui est vrai que moi, comme beaucoup de Britanniques, j'ai un peu de mal à digérer les résultats du référendum de la semaine dernière. On se demande comment on est arrivé là. Je pense qu'on a ouvert la porte de sortie de l'Europe, mais on ne sait pas trop ce qui nous attend maintenant. Il y a beaucoup d'incertitudes.
Et Pauline Schnapper nous disait à l'instant que le Royaume-Uni était en danger. Est-ce que là, sur cette expression, vous rejoignez sur les points de vue ?
Alors, je pense que parler de danger, c'est un peu trop dramatiser la situation, parce qu'éventuellement, il peut y avoir un divorce de plus entre l'Angleterre et l'Écosse, mais je pense que ça peut se faire à l'amiable.
Alors, précisément sur l'Écosse, Pauline Schnapper, donc l'Écosse a massivement voté pour rester dans l'UE, hein, 62% en gros contre 48% pour l'ensemble des Britanniques. Donc, résultat, le Premier ministre Nicola Sturgeon a immédiatement évoqué la possibilité d'un référendum sur l'indépendance pour que le pays reste dans l'UE. Le Royaume-Uni, pour lequel l'Écosse a voté pour rester en 2014, n'existe plus, c'est ce qu'elle a déclaré et elle l'a répété hier.
Ce qui va se passer, c'est que le Royaume-Uni va être sévèrement touché à cause de sa sortie de l'Union européenne. Et moi, je veux protéger l'Écosse de tout ça.
Nicola Sturgeon, donc Premier ministre écossais, chef du parti indépendantiste, qui veut protéger l'Écosse, donc qui veut un nouveau référendum. Pauline Schnapper, est-ce que Londres, qui doit donner son accord, pourrait aujourd'hui refuser un référendum à l'Écosse ?
C'est difficile à dire, là aussi, encore à ce stade. Il est évident que les indépendantistes écossais, évidemment, sautent sur cette occasion qui leur est fournie. Ils sont authentiquement pro-européens, mais évidemment, leur première priorité, c'est d'obtenir l'indépendance de l'Écosse. Il y a 2 ans, en septembre 2014, ils n'avaient pas réussi. Le vote pro-indépendance avait recueilli 45% des voix. Leur espoir, mais à vérifier en fonction des sondages qui seront à venir, c'est que le choc du Brexit fasse basculer une partie de l'électorat écossais, qui n'était pas favorable à l'indépendance vis-à-vis du Royaume-Uni, en faveur de l'indépendance pour pouvoir rester dans l'Union européenne. Cela dit, ça n'est pas fait, ça n'est pas du tout acquis. D'abord parce qu'en principe, il faut évidemment l'accord de Londres pour organiser un tel référendum. Si les Écossais passaient outre et organiser un référendum qui n'aurait pas de valeur, disons, constitutionnelle, mais qui évidemment serait un signal politique très fort, cela créerait une crise très forte avec Londres.
Richard Davis, comment vous voyez la suite des événements en Écosse ? Vous pensez que ça peut aller très vite ?
Très vite, je ne crois pas, mais je pense qu'on a ouvert la porte là à plusieurs possibilités. Je pense que de toute façon, en dehors de la question de l'Europe, l'indépendance de l'Écosse, la question a été posée depuis longtemps. Et de toute façon, tôt ou tard, les Écossais allaient se reposer la même question. Je pense que maintenant, le Parti nationaliste, SNP, va saisir l'occasion, justement, pour booster leur campagne pour l'indépendance. Et je pense que l'occasion est bonne pour eux.
C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une tendance de longue durée avec un Brexit qui est une forme d'accélérateur. C'est ça, Richard Davis?
Oui, je pense que c'est tout à fait ça. Je pense que c'est sur le long terme, ça fait longtemps que les Écossais se sentent de moins en moins britanniques, de moins en moins proches de l'Angleterre, et que petit à petit, ils se dirigent vers une forme d'indépendance, plus ou moins d'indépendance. C'est toujours difficile à dire que les choses en termes de noir et de blanc, mais je pense qu'une forme de plus en plus d'autonomie et éventuellement une forme d'indépendance.
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, Pauline Schnapper? Parce que bon, il y a eu des sondages qui ont été faits juste après l'annonce du Brexit, donc c'est difficile parce qu'évidemment, il y a un côté émotionnel. En plus, on sait que les sondages sont pas toujours très, très fiables. On l'a encore vu ces derniers jours. Mais ces sondages disent qu'aujourd'hui, ça pourrait être 6 Écossais sur 10 qui voteraient pour l'indépendance. Ça voudrait dire quoi? Qu'aujourd'hui, l'identité européenne de l'Écosse est plus importante que son identité britannique?
Je crois qu'il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions. Ce sont des sondages qui ont été faits sous le coup de l'émotion, parce que la situation a quand même pas mal évolué sur le plan économique depuis le référendum de 2014. Avec l'écoulement du prix du pétrole, il est plus difficile aux indépendantistes écossais d'expliquer que l'Écosse serait viable économiquement si elle était indépendante. La dépendance vis-à-vis de Londres est quand même très forte sur le plan économique. Donc le choix qui va s'offrir aux Écossais, c'est est-ce que on est plus sûr, plus prospère tout seul, mais au sein de l'Union européenne, ou en gardant quand même ce lien très fort avec Londres. Et là, pour l'instant, il est vraiment trop tôt pour savoir quelle réponse ils donneront à cette question.
Richard Davis, vous partagez cette analyse sur cette difficulté à trouver le facteur déterminant, finalement, qui ferait pencher la balance d'un côté ou de l'autre?
Je pense que ce sont des questions très complexes, surtout la question de l'identité écossaise, britannique, anglaise, européenne. On est tous un peu tout en même temps. Alors, après, la question de l'économie...
Précisons pour les auditeurs que vous êtes anglais.
Je suis anglais, effectivement. Je pense que la question de l'économie aussi est centrale. Si jamais, donc, et je pense que c'est prévisible, le Royaume-Uni, y compris l'Écosse, entre dans une période de difficulté économique et que le pays vraiment entre dans une récession de longue durée, là, je pense que l'Écosse risque de voir son avenir plus en Europe, plus qu'avec les Anglais dans le Royaume-Uni.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose de très symbolique à réintroduire une frontière terrestre entre l'Écosse et l'Angleterre, Pauline Schnapper? Parce que
bien
ça, ce n'est pas un argument qui, dans la campagne, pourrait faire peur à ceux qui pourraient basculer vers l'indépendance?
Oui, oui, ça pourrait jouer. Et il est évident que symboliquement, d'ailleurs le problème se pose différemment, mais se pose aussi en Irlande, bien sûr, introduire une frontière entre l'Écosse et l'Angleterre, qui serait aussi une frontière entre l'Union européenne et le reste du monde, poserait une série de problèmes, bon, de circulation des personnes, bien sûr, des biens, et aussi un problème, j'allais dire, presque culturel. Enfin, les liens, quand même, entre anglais et écossais sont énormes. Beaucoup d'Écossais se sentent aussi britanniques. Beaucoup d'Anglais ont une partie de leur famille en Écosse. Enfin, les liens sont tellement profonds depuis si longtemps que l'introduction d'une frontière terrestre serait vraiment un bouleversement très important.
Richard Davis, sur l'introduction d'une frontière terrestre, est-ce que vous partagez cette analyse?
Je pense que c'est un peu difficile d'imaginer qu'il y ait des contrôles à la frontière entre l'Angleterre et l'Écosse. C'est tellement ouvert, c'est quasiment impossible de réguler une telle frontière. Et c'est dans l'intérêt des personnes non plus. Mais cela dit, si l'Écosse décide de rester dans l'Union européenne et que l'Angleterre quitte l'Europe.
C'est ce qui va se passer, c'est ce que semble dire Pauline Schnapper qui dit bah oui.
Et voilà, si on accepte que le Royaume-Uni, l'Angleterre qui reste ne fasse plus partie du marché commun avec libre circulation, non, là, la question se pose. Et justement, s'il y a une de ces questions, parmi beaucoup d'autres, qui se posent actuellement et pour lesquelles on n'a pas de réponse.
Alors, autre question qu'on se pose, c'est évidemment ce qui va se passer en Irlande du Nord. Alors, Pauline Schnapper, on le rappelle là aussi. En Irlande du Nord, on a survoté par rapport au reste des Britanniques pour le maintien dans l'UE. Donc là, c'est 56% contre 48%, je le rappelle. Le Parti républicain, dès qu'on a eu les résultats, le Sinn Féin a réclamé un référendum d'autodétermination sur l'unification de l'Irlande. Donc c'est un peu différent très différent du cas écossais. Quelles seraient en fait les conséquences d'un Brexit pour l'Irlande du Nord si elle reste dans le Royaume-Uni?
Alors, il faut bien voir que le cas de l'Irlande du Nord est très différent de l'Écosse, d'abord sur le plan politique et sociologique, j'allais dire, puisqu'on a deux communautés, pour simplifier, deux communautés en Irlande du Nord, communauté protestante et catholique. Les catholiques souhaitent en majorité la réunification de l'île, donc avec la République d'Irlande, alors que les protestants, encore une fois, je simplifie, mais en gros, veulent rester dans le Royaume-Uni. Or, ce que ce vote semble montrer, c'est que les catholiques ont voté en très grande majorité pour rester dans l'Union européenne. Et les protestants se sont partagés entre les sympathisants du parti, disons, le plus modéré, qui voulait rester dans l'Union européenne, alors que le parti au pouvoir, DUP, enfin qui partage le pouvoir, protestant donc, était, comme les conservateurs anglais, plutôt pour le Brexit. Mais au total, si on prend donc l'ensemble de l'Irlande du Nord, ils ont voté avec une assez large majorité pour rester dans l'Union européenne. Ça s'explique pour un tas de raisons spécifiques à l'Irlande du Nord, en particulier l'accord donc de paix, l'accord du Vendredi Saint de 1998, qui a été signé vraiment dans un cadre européen. L'Europe est en quelque sorte une des garantes de cet accord de paix. D'où les inquiétudes des Irlandais du Nord, qu'on peut bien comprendre, sur ce qui pourrait se passer si l'Irlande du Nord était forcée de sortir de l'Union européenne contre son gré. Là, c'est vraiment une question... C'est la paix qui est en jeu. Plus, évidemment, aussi les relations économiques et commerciales avec le reste de l'Irlande. En pratique, pour l'instant, il n'y a pas de frontière entre le Nord et le Sud. Même ce sont deux pays différents, dans la pratique, il n'y a pas de frontière. Et là aussi, il faudrait rétablir une frontière, ce que personne ne souhaite, entre le Nord et le Sud de l'Irlande en cas de Brexit.
Donc, ce que vous semblez nous dire, c'est que donc la paix est en jeu, là, avec ce vote du Brexit. Richard Davis, est-ce que vous aussi, vous craignez qu'en cas de Brexit... Alors, bon, évidemment, tout est en train de se négocier en ce moment. On a du mal à avoir une visibilité. On ne sait pas à combien. Est-ce que ça va être quelques mois, deux ans, comme les textes semblent le dire, ou plus. Mais Richard Davis, est-ce que vous aussi, vous craignez pour la paix en Irlande avec ce vote pro-Brexit?
C'est vrai que pour l'Irlande du Nord, la situation est plus grave que pour l'Écosse, par exemple. Les deux cas ne sont pas du tout semblables. C'est vrai aussi, par exemple, que l'Irlande du Nord est une région qui reçoit énormément de subventions de l'Europe. Et maintenant, avec le Brexit, cet argent n'arrivera plus. Donc, à la fois, c'est une question politique qui date depuis des siècles en Irlande du Nord, mais aussi économique. Donc c'est vraiment troublé pour la situation en Irlande du Nord est très très troublée, très inquiétante.
Et que disent Pauline Schnapper les Irlandais de la République d'Irlande?
Alors les Irlandais ont fait une campagne inefficace mais assez active en suppliant les Britanniques de rester dans l'Union européenne. Pour plusieurs raisons, une qui est liée à ce qu'on vient de dire sur l'Irlande du Nord et leur implication aussi dans le processus de paix en Irlande du Nord et donc leur intérêt pour la stabilité, mais aussi à cause de leurs liens politiques et économiques et commerciaux très forts avec l'Angleterre et avec le Royaume-Uni. Donc séparer, faire sortir le Royaume-Uni pour les Irlandais, c'est un vrai problème parce que ça mettrait en péril beaucoup de leurs liens économiques. Et puis il faut pas oublier qu'il y a une très forte diaspora irlandaise au Royaume-Uni qui a d'ailleurs pu voter dans ce référendum.
Alors, si on se projette un petit peu, d'après ce que vous nous dites tous les deux, on a l'impression que la probabilité d'une Écosse indépendante est plus importante que celle d'une Irlande du Nord. Est-ce que ça aurait un sens d'avoir un Royaume-Uni sans Écosse et avec l'Irlande du Nord, Richard Davis? Qu'est-ce que ce serait que ce Royaume-Uni-là? Quelle serait son identité?
Oui,
c'est une question compliquée, j'imagine.
Un Royaume-Uni sans l'Écosse n'est plus un Royaume-Uni, ça c'est évident. Alors là, ça va poser des questions pour les Anglais, l'identité des Anglais, de l'Angleterre, le nationalisme anglais aussi, ce qui dérange pas mal d'Anglais qui préfèrent justement une identité britannique, mais qui seront obligés, si l'Écosse nous quitte l'Angleterre, et ils seront obligés justement de revoir l'identité qu'ils ont, et aussi leur système politique. Le Parlement, sans les députés écossais, à Westminster, devient tout autre chose.
Et comment est-ce que vous définiriez aujourd'hui l'identité du Royaume-Uni?
Identité très confuse, je dirais, très incertaine. Je pense que quand même il y a un certain attachement à l'identité britannique qui est là depuis quand même plusieurs siècles. Et ce n'est pas facile à simplement mettre ça de côté. Hein.
Pauline Schnapper, l'identité, oui. Parce qu'en fait, on parle de ça là. Mais on est en train de parler de pays.
Tout à fait, c'est très compliqué. C'est vrai qu'elle est affaiblie, cette identité britannique. Je suis tout à fait d'accord avec Richard qu'elle n'a pas disparu. Hein. Il y a quand même beaucoup de gens qui y sont attachés, mais elle est certainement en crise. Et ce qu'on voit depuis quelque temps, c'est cette espèce de regain d'une identité anglaise qui s'est beaucoup manifestée dans ce référendum. C'est-à-dire que, vous allez me dire que les Gallois aussi ont voté pour sortir de l'Union européenne, mais on a une identité anglaise qui a tendance à se définir contre l'Europe, contrairement aux identités écossaises et irlandaises dans toutes leurs acceptions. Et c'est vrai que beaucoup d'Anglais qui se sentent anglais certes, mais aussi britanniques et aussi européens, ont du mal à se reconnaître dans cette identité-là. Donc je crois que Richard a tout à fait raison de dire que tout ça est en flux. Il va y avoir des redéfinitions possibles de ces identités différentes. Ce qui est sûr, c'est que ce référendum est une illustration. C'était pas son objectif, mais c'est une illustration des difficultés des Britanniques à donner un sens à ce qu'ils sont en ce moment.
À se définir.
Et à se définir.
Bah, comme les Européens, finalement.
Comme les Européens en général, mais particulièrement eux.
Et Richard Davies, on parlait justement du Pays de Galles. Comment expliquer que le Pays de Galles, à l'inverse de l'Écosse, à l'inverse de l'Irlande du Nord, ait voté plus comme les Anglais, entre guillemets, même si on est à la radio?
Je pense que les Gallois n'ont jamais eu le même sentiment d'indépendance ou le souhait d'être indépendants comme en Écosse. Ils sont toujours loin derrière les Écossais en termes de nombre de députés nationalistes qui sont élus. Je pense que simplement le Pays de Galles est plus petit que l'Écosse, beaucoup plus proche de l'Angleterre physiquement, mais aussi dans d'autres termes aussi. Et je pense que les Gallois, pour eux, l'identité nationale galloise n'est pas forcément une identité politique, alors que c'est le cas pour beaucoup d'Écossais.
Alors ce serait une identité plus culturelle, historique, c'est ça ?
Culturelle, historique, ils ont eu aussi leur propre langue. Bien entendu que pas tous les Gallois ne parlent pas le gallois, mais un bon tiers des Gallois ont une langue qui leur appartient.
Pauline Schnapper, votre regard sur le
Pays
de Galles?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je me demande s'il ne faut pas aussi ajouter un facteur socio-économique. On a vu qu'il y avait eu quand même une grande différence entre le vote, disons, des régions riches et urbaines d'un côté et des régions plus pauvres de l'autre. Or, le Pays de Galles, même s'il a beaucoup bénéficié, c'est l'ironie cruelle de ce vote des fonds européens, reste une région pauvre. Et donc, on a quand même une adéquation qui vaut pour l'ensemble du pays entre pauvreté économique et vote pour le Brexit. Donc, ça pourrait aussi expliquer, en dehors de ce que vient de dire Richard, ce vote plus proche, finalement, de celui des régions pauvres d'Angleterre.
Et alors, sur cette identité, Richard Davies nous disait ce n'est pas une identité politique, c'est une identité qui est plus culturelle, plus historique. Vous y voyez, vous aussi, l'explication?
Ah oui, tout à fait. Le mouvement indépendantiste qui existe au Pays de Galles, mais est beaucoup moins puissant que son homologue, si je puis dire, écossais. Ça n'a rien à voir.
Et l'interdépendance. Beaucoup moins puissant, c'est-à-dire?
En termes politiques.
Oui, alors c'est quel pourcentage? Alors, est-ce que c'est vraiment réduit? Est-ce que...
Le Plaid Cymru, donc le parti indépendantiste gallois, ou plutôt nationaliste gallois, est représenté dans l'Assemblée galloise, mais c'est le Parti travailliste qui domine l'Assemblée galloise. Alors ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en Écosse, où le parti indépendantiste domine de très loin la scène politique écossaise.
Merci beaucoup. J'imagine que pour vous deux, ce seront des années passionnantes qui s'ouvrent en termes d'analyse pour ce que ça dit de la civilisation britannique, qui est votre spécialité à vous deux. Pauline Schnapper, donc, professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Merci également à Richard Davies, qui était avec nous par téléphone, professeur de civilisation britannique à l'Université de Lille. Merci également à Florence Pons, à Hélène Avril. Dans quelques secondes, c'est un nouveau journal sur RFI.
Tous les jours, Accent d'Europe vous...